Il y a 3 semaines, c'était la fête des mères. Steven nous a conduit dans Proverbe 31, sur la fin de Proverbe 31. Ce texte parlait d'une femme de valeur. Mais on avait vu que surtout le texte, en termes de conclusion du livre des Proverbes, personnifiait la sagesse. Et le message s'adressait en fait à chacun d'entre nous, homme comme femme, à chercher la sagesse de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu franchement, un peu de masculinité. Et ce matin, je vais m'adresser à vous les hommes. Vous êtes là? Ouais?
Ouais.
Aujourd'hui, définir ce que c'est être un homme, c'est devenu un vrai défi. Vous l'avez vu peut-être, hein, on le voit pas bien avec les couleurs, mais il y a la moustache, bon, ouais. Il y a un cœur, et en plus les couleurs sont roses, bon. C'est pas évident. Quand on pense à l'image de l'homme, je sais pas quelle image vous avez, mais on pourrait penser, vous savez, Michel-Ange a sculpté Moïse. Je sais pas si on le voit bien, ouais, il a sculpté Moïse en 1500, hein. Ça date, mais ça date pas si. Qu'est-ce qu'on voit? Une figure imposante. Moïse, hein, bien sûr. Musclé. On le voit déjà, hein, les muscles bien saillants dans du marbre, ça devait être. Il a un regard intense, il a la barbe bien fournie. En fait, il lui manque plus que le bras tatoué pour coller au cliché viril d'aujourd'hui. C'est vrai que dans notre société, d'un côté, on célèbre un peu cette virilité, parfois brutale, caricaturale, dominatrice, contrôlante, et notamment en ce moment aussi portée par certaines figures politiques, publiques ou influenceurs. Hein. Pour d'autres, le repère de ce que c'est un homme, c'est beaucoup plus flou. On ne sait plus ce qui distingue d'un homme d'une femme. Et dernièrement, au groupe de jeunes, il y avait un jeune qu'on n'avait jamais vu et j'arrivais pas à me dire est-ce que c'est une fille ou un gars. J'avais du mal dans ses habits, dans son apparence. Et on est dans ces deux extrêmes. Et beaucoup d'hommes se sentent parfois perdus, tiraillés entre pression, attente, confusion, passivité. La tentation de ne rien faire du tout et de se dire « Ouf, c'est dangereux, je vais vers là. » Mais ce qui m'a rassuré en préparant ce message, Dieu, lui, ne change pas. Et il ne nous demande pas de copier les stéréotypes du moment. Il ne nous appelle ni à dominer, ni à disparaître. Et il nous propose un tout autre modèle, Jésus-Christ, homme. Oui, dans la vie du chrétien, il y a des rencontres qui changent tout. Et je pense, et j'espère, pour nous qui avons rencontré Christ, la rencontre avec Jésus, ça change. Et c'est pas de se construire une façade, d'ajouter des couches d'apparence, mais il s'agit en fait de laisser Dieu enlever ce qui nous empêche en fait de lui ressembler, comme un sculpteur. Dieu veut sculpter en nous, et on l'a peut-être entendu aussi dans certains de ses chants, l'image du véritable homme, Jésus. C'est ce que j'aimerais un peu nous encourager à méditer ce matin. Et pour cela, j'aimerais nous inviter à aller dans Michée, chez le prophète Michée. Michée 6, pour être précis, je vous invite vraiment à prendre le texte sous les yeux. Michée au chapitre 6, pour entendre ce que Dieu veut nous dire, nous, hommes de foi. Il va nous montrer pas un modèle culturel, mais il y a un appel vraiment spirituel, profond, qui est profondément à contre-courant. Alors, sommes-nous prêts à continuer à nous laisser façonner par Dieu, nous les hommes?
Oui.
Alors, je voudrais prier avant de lire le texte. Seigneur, merci pour cette occasion ce matin d'être rassemblés. Merci parce que ta parole, elle a traversé les siècles et elle est là aussi pour nous rejoindre dans nos questionnements, dans nos préoccupations. Et c'est vrai, dans cette journée où le monde, ou en tout cas notre pays, célèbre les papas, les hommes, Seigneur, on voit dans notre culture les défis de ce que c'est être un homme, des attitudes, des comportements qui doivent être les nôtres. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais vraiment te demander que tu travailles nos cœurs et que tu nous montres l'image que nous sommes appelés à porter, cette vie que nous sommes appelés à incarner. Et merci parce qu'on a un modèle Jésus-Christ. Alors merci de nous aider, Seigneur, à fixer notre regard. Transforme-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais lire dans Michée 6, les versets 6 à 8, et je vais lire dans la traduction Colombe. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? M'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, donc ça veut dire des sacrifices de bonne qualité, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou la justice, c'est que tu aimes la loyauté ou la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu, hein, on a peut-être le texte le plus connu dans Michée, Michée 6, verset 8. Hein. Alors voici le résumé que j'ai donné pour ce matin. Dieu veut rendre Jésus visible à travers toi, à travers nous, on pourrait dire. Et mes trois points vont être directement tirés de ce texte. Mais avant de les explorer, j'aimerais faire une petite pause, on va dire théologique, une fondation. En fait, j'ai appelé ça mon bloc de granit, hein, pour rester dans l'image de tout à l'heure. Parce que pour sculpter un Moïse ou pour sculpter Jésus-Christ, il faut un bloc de granit, de pierre solide. Et pour nous, ce bloc, c'est le verset 8 de Michée 8, Michée 6. Hein. On voit que chaque mot est pesé et compte. Et le verset commence ainsi, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » On t'a fait connaître. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau. Et là, on est Michée, qui est déjà plusieurs siècles en arrière. Il est en train de dire au peuple, ben, vous savez ce que c'est être un homme. On est sans excuse. Mais le mot homme, là, ici, littéralement, c'est Adam, le terme hébreu qui est utilisé. Alors, on pourrait comprendre, c'est vrai, l'humanité tout entière, et c'est juste. Mais ce matin, j'aimerais, et j'aime cette idée de prendre l'idée que Dieu s'adresse à nous, les hommes, le Adam. Ça nous ramène au tout début, à l'homme dans la création, à la, dans ce jardin. Et donc, qu'est-ce que c'est être un homme selon Dieu ? Un homme dans le jardin plein de fleurs. Je choisis ma chemise, pas pour rien ce matin. Bien évidemment, mesdames, ce message va vous concerner aussi, mais j'aimerais, et vous verrez, illustrer principalement pour nous les hommes. D'où le titre ce matin pour mon message, Homme en chantier, ressembler à Jésus. Je relis simplement Michée 6, verset 8, hein, du coup. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. On a trois traits caractéristiques. Hein. Ce qui est intéressant, c'est le contexte de ce verset, de ce passage. En fait, Michée parle à un peuple qui a rejeté Dieu, qui a rejeté la justice de Dieu, au point qu'ils sont arrivés, et vous le voyez dans le chapitre 3, ils ont la justice en horreur. Ils font, voilà. Ils ont remplacé la compassion par l'exploitation des plus faibles. Ils ont remplacé leur foi en Dieu par des rituels, par tout un tas de religiosités tout à fait déconnectées du cœur. Et vous l'avez entendu, les deux grandes questions qui préoccupent Michée au début du passage, c'est « Mais comment je me présente devant Dieu ? Comment je me présente devant le Dieu très haut ?» La deuxième question, verset 7, « Et pour mes péchés, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors il parle d'holocauste, de milliers de béliers, même éventuellement de sacrifier son propre fils. Et on le voit dans la réponse, c'est ni la qualité, ni la quantité de mes sacrifices qui compte. Mais la réponse de Dieu est révolutionnaire. Il répond par ce verset, tout doux on pourrait dire, et exigeant à la fois. Pratique le droit, aime la fidélité, marche humblement avec ton Dieu. Voilà notre bloc de granit. Voilà ce que Dieu cherche, des cœurs transformés, pas la performance religieuse. Il nous invite à nous laisser transformer à l'image, en fait, du second Adam. Vous rappelez peut-être, vous avez peut-être fait attention au texte de Matthieu de dimanche dernier dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier Adam devient un être vivant. Le dernier Adam, ça veut dire Jésus, est un esprit qui communique la vie. C'est l'esprit de Dieu qui veut façonner notre caractère. Mais il faut le laisser faire. Alors est-ce qu'on laisse Dieu faire lorsqu'il met le doigt dessus sur nos caractères qu'il a besoin de transformer? Est-ce qu'on lui donne accès? Tout au long de l'année, on a travaillé un Corinthien, on a vu des choses assez bouleversantes, remuantes. Est-ce que ça a travaillé nos cœurs? Ou est-ce qu'on résiste? On a un cœur dur. Dieu façonne, Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Et dans ce contexte de notre société confus, floue. Alors j'aimerais relever avec vous trois coups de marteau, on pourrait dire, du sculpteur divin. Trois éléments que Dieu veut tailler dans notre cœur. Vous allez voir trois éléments qui sont très liés. Premier coup de marteau, vous l'avez peut-être remarqué, des mains utiles pour faire le bien. Alors pour ceux qui aiment le cinéma, vous connaissez probablement Rocky, James Bond peut-être, Bruce Willis dans Piège de cristal, Tom Cruise dans Mission Impossible, ou encore les super-héros hein, comme Captain America, Superman et j'en passe. Et dans tous ces films de super-héros et d'hommes à tout faire, c'est des hommes qui pratiquent la justice. Et comment ils pratiquent la justice? À manière de coups de poing, de gadgets en tout genre, de mitraillettes. On a grandi avec ces images, hein. Le héros qui règle les problèmes par la force, qui élimine les méchants par centaines. Et avoue-le, ça te donne une petite satisfaction. Mais est-ce vraiment de cette justice dont Dieu parle? En fait, on le sait, hein, la réponse est toujours « Non, Dieu, ça n'a rien à voir ». Mais la pression pour être de vrais hommes, elle est forte. Hein. On valorise cet aspect de la domination, de la force brute, et on perd un peu nos repères. Et dans ce contexte où on ne sait pas trop, on se replie, je le disais tout à l'heure, on compense par la colère, on est peut-être indifférent, ou on fuit dans les distractions. On parle beaucoup aujourd'hui de masculinité toxique. Parce qu'on sait que c'est pas la force en elle-même qui est mauvaise, mais la force sans justice, sans amour, sans humilité. Mais Dieu ne nous demande pas de régler, de faire justice avec les poings, ou de venger le monde, ou d'être des héros masqués. Il nous invite à pratiquer la justice. Et ce mot est important. Alors la justice selon Dieu, c'est quoi? La justice selon Dieu, c'est exercer le droit, c'est discerner ce qui est bien, défendre ce qui est vrai, agir avec droiture et bonté. C'est pas une justice punitive, c'est une justice qui restaure, qui protège, qui relève. Si on devait l'illustrer dans la vie quotidienne, hein, pratiquer la justice selon la parole de Dieu, c'est l'honnêteté au travail, même quand personne ne nous regarde. C'est défendre quelqu'un qui subit une injustice, même si ce n'est pas très populaire. C'est refuser de participer à des ragots parce qu'on veut être dans la vérité ou à des moqueries. C'est être fidèle dans ses engagements. On parlait des années de mariage, dans sa parole, dans sa famille. J'aime la préoccupation de l'auteur des Hébreux qui dit « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes en point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous voyez, on entend ce même écho de parole de justice, de discernement entre ce qui est bien et mal. Hébreu nous dit que la maturité spirituelle, on pourrait dire la force, c'est d'exercer notre discernement, à distinguer le bien du mal. Alors un homme de justice, je fais les raccourcis, hein, mais c'est ce que dit la parole, c'est un homme qui se nourrit de ce que Dieu dit, de cette justice de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Alors, soyons des hommes qui cherchons dans la parole de Dieu à découvrir, à être des hommes qui pratiquons cette justice. Ils pratiquent le bien. On n'est pas en train de tirer sur tout le monde, mais on est en train de pratiquer. Il y a une action. Dans cette même veine, on l'avait vu dans Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Et là, ça fait écho à ce qu'on vient de voir dans Hébreux. Si on veut être des hommes et non pas des enfants, on est appelé à pratiquer la justice, à être des hommes qui discernions entre le bien et le mal. On devrait être des hommes amoureux de la parole, passionnés par la volonté de Dieu. Et je me suis dit, Jésus l'illustre parfaitement la justice dans Matthieu 6. Alors, je vous demande pas de le prendre ce matin, mais je vous invite à le lire. Et c'est ce passage où qui parle d'offrandes, qui parle de prières, qui parle de jeûnes. Et on voit trois manières dont la manière dont Jésus exerce ses mains à la justice. Premièrement, on voit ses mains tendues. Ces dimensions du don généreux. Il dit, vous devez donner de votre offrande, de votre temps, de vos compliments. C'est ça les dons aussi. On a des progrès à faire dans les compliments, nous les gars. C'est être attentif aux besoins autour de nous, tendre la main à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est la justice de Dieu. Les mains tendues. Mais on le voit aussi dans ce Matthieu 6, c'est les mains jointes, comme la prière. Pourquoi la prière est une manière de pratiquer la justice? Parce qu'en fait, c'est vider son cœur devant Dieu quand on voit ses injustices et qu'on aimerait frapper du poing. Quand tu es stressé, quand tu es en colère en rentrant du boulot, parle-en à Dieu, la prière, plutôt que de déverser ton stress sur ton épouse ou tes enfants en rentrant. On en a parlé hier soir aussi, entre hommes. Dieu est capable d'entendre, il a le dos large. Il est capable de porter, de supporter. Notre Père céleste sait ce qu'on a besoin. Il est avec toi toute la journée, il est au contrôle. Et enfin, mains jointes, mais des mains élevées, ça c'est la question du jeûne, c'est la dimension de la consécration, un acte d'humilité, c'est le moment où tu as soif de Dieu, où tu as envie d'être rempli par Dieu. Et j'aimerais vraiment nous interroger, qu'est-ce qui remplit notre vie? Est-ce qu'on est affamé de Dieu? Ou on est rassasié des distractions du monde et qui nous empêchent d'être des hommes et des femmes qui pratiquons la justice? Dieu nous a déjà fait connaître ce qui est bien. C'est le début du verset 1. Ça m'interroge, du coup, on a Matthieu 6 qui montre comment Jésus enseigne, mais comment Jésus a-t-il vécu cette justice? Jésus, c'est l'homme aux mains justes, justement. Il n'a pas eu des poings serrés pour dominer, mais elle a eu des mains ouvertes pour servir. Moi, je suis toujours touché dans ces récits. Il a relevé les exclus. Ceux qui étaient mis à part, les estropiés. Il a eu des mains ouvertes pour servir. Il a eu des mains prêtes à toucher ce qui était impur. Il a guéri les malades, il a défendu les faibles. Il a lavé, on le sait, les pieds de ses disciples. Avec ses mains, il a exercé sa justice. Un geste impensable pour un chef dans la culture de son temps. Ses mains, il les a jusqu'à tendues sur la croix pour donner sa vie pour tous. Là où notre culture se dit pratiquer la justice, montre la force, la brute, Jésus révèle la puissance d'un service humble qui agit avec beaucoup de compassion, avec d'humilité, de sacrifice. Il n'a pas cherché sa gloire. Alors pratiquer la justice, regardons à Christ. Voyons ses mains qui ont pratiqué cette justice de Dieu. Deuxième coup de marteau, un cœur aimant pour aimer comme Dieu aime. Quand on parle de miséricorde, quand on parle d'amour, on a un peu des mots doux là, le côté rose, fragile, faible, pas très viril. On est dans une culture aussi où parfois, c'est pas toujours le cas, mais exprimer ses émotions, ses sentiments, sa tendresse, pour un homme, c'est parfois vu comme une faiblesse. On entend dire, un vrai homme, ça ne pleure pas. Même encore aujourd'hui, on l'entend. Ça ne dit pas, je t'aime. Soyons honnêtes. On a parfois du mal à dire cela. Hein. Après 55 ans de mariage, un peu moins, hein, on a parfois du mal dans le quotidien de dire ces choses-là, sans perdre des points de virilité, sans reconnaître ses torts, se dire « Ah, oh, chérie, j'étais blessé. » Ah, c'est dur. Aujourd'hui, on le voit beaucoup hein, sur les réseaux. Ils se disent « Pour être un homme, ça doit endurer, ça doit être froid, ça doit être distant, ça doit être inatteignable. » Et d'ailleurs, avec cette image aussi des muscles, ça fait partie. Est-ce que c'est la vraie force qu'on voit dans ce texte? La Bible nous dit autre chose, et je reviens simplement à un petit passage, hein, dans Proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à ma voix, à mes voix. » Ton cœur. Aimez la miséricorde. Donne-moi ton cœur. Et pourquoi il n'a pas dit pratiquer la miséricorde ou la bonté? C'est intéressant. Michel n'a pas dit pratique la miséricorde, mais il a dit aime la miséricorde. En fait, si tu pratiques la miséricorde, tu risques de tomber un peu dans un automatisme, une liste de cocher. J'ai aidé quelqu'un, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, là j'ai été tendre, là j'ai dit ça. Et tu peux virer vite vers le légalisme. Et c'est pas là que Dieu veut nous amener. Il veut aller au plus profond, il veut toucher notre cœur. Aime la loyauté, aime la miséricorde. Il veut qu'on soit animé d'un amour sincère, de bonté, de compassion, de grâce. On le voit, Osée, un autre prophète, il dit « Je prends plaisir », c'est Dieu qui dit « à la bonté et non au sacrifice ». Tiens, ça fait écho à Michée. « À la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes, plus qu'à ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. » Dieu veut nos cœurs, pas juste nos gestes extérieurs. Comment on pourrait le traduire dans la vie extérieure, de se dire d'aimer la miséricorde? En fait, c'est facile, on l'a vu dans Corinthiens notamment. Hein. C'est pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, même quand tu aurais raison de lui en vouloir. C'est le prendre le temps d'écouter quelqu'un, même si tu es pressé par le temps. On parlait du temps hier entre hommes. C'est être patient avec tes enfants ou ton conjoint, même quand tu es fatigué. Aimer avec miséricorde, c'est aller vers celui qui est isolé, sans rien attendre en retour. Tu te dis peut-être comme moi, hein, c'est vraiment pas naturel. Et on a raison. Parce qu'on sait que aimer la miséricorde, c'est juste pas question de caractère. C'est un cadeau de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui change nos cœurs de pierre, insensibles, en cœurs de chair, sensibles à la génération qui est autour de nous. Et pour cela, on a besoin d'ouvrir la parole. Vous allez dire, je radote, hein, mais c'est vrai. C'est un bon point de départ de se dire comment Dieu il nous aime. On l'a vu quand on a partagé Corinthiens. Et je sais, là je m'adresse aux hommes, que pour les hommes, c'est difficile de lire. Les statistiques disent que plus de la moitié, alors je ne sais pas comment c'est pour nous chrétiens, mais plus de la moitié n'aime pas lire. J'ai une bonne nouvelle pour nous, on peut l'écouter. On peut l'écouter. Alors mets-toi au calme et écoute-la et dis Seigneur, parle-moi. Vivre la miséricorde de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer la connaissance de notre Dieu qui est rempli de miséricorde, c'est aimer les voies de Dieu. Et cela est possible par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une performance humaine. Alors on veut être des vrais hommes, alors ayons un cœur façonné par la miséricorde, par la bonté. On n'a pas besoin de se protéger derrière un ego ou des habitudes. On est appelé à mourir à soi-même pour que Dieu travaille et agisse à travers nous. Et j'aime revenir à comment Jésus il a montré son amour. On le sait, hein, il a eu un cœur débordant quand il était parmi nous. Il a pleuré sur Jérusalem qui était rebelle et qu'il savait aller être détruit. Il a eu, moi j'aime, c'est un passage qui me marque toujours, quand il a vu la foule devant lui, il a eu compassion de la foule. Il a pardonné à ceux qui allaient le crucifier. Il a accueilli des gens de mauvaise vie qui n'étaient pas fréquentables. Il a consolé ceux qui étaient affligés. Il a aimé au point de donner sa vie pour ses ennemis. Et ça, vous le voyez quand vous parcourez les évangiles. Alors je vous invite, en tant qu'homme, à regarder cette image de l'homme, ce nouvel Adam Jésus, comment il a agi. Regardez comment il a accueilli Zachée, comment il a accueilli la Samaritaine, comment il est allé vers Pierre qui l'avait renié trois fois. Moi, je lui aurais mis mon pardon. Jésus va plus loin que nous. Jésus a aimé jusqu'au bout. Il a pardonné l'impardonnable. Il a manifesté une miséricorde, une loyauté, une humanité, une bonté sans limite. Dans une culture où on cache ses émotions, où on est appelé à montrer ses forces, je crois qu'en tant qu'homme, on est peut-être aussi à l'image de Christ, appelé à montrer cette sensibilité qui est bouleversante. Il veut façonner ce même cœur en nous. Alors après les mains qui pratiquent la justice, le cœur qui aime la miséricorde, il nous reste dans le tableau les pieds, des pieds engagés pour suivre Dieu pas à pas. Alors les gars, on aime généralement bricoler, réparer. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai eu un père qui était bricoleur et j'ai toujours aimé ça. On aime montrer ce qu'on est capable de faire. Mais soyons honnêtes, on va pas toujours jusqu'au bout du chantier. On le laisse traîner pendant des mois. Parce que quoi ? Parce qu'on a du mal à demander de l'aide. On a du mal à reconnaître nos limites lorsqu'on est devant un dilemme. On veut contrôler, on veut prouver parfois qu'on est des vrais hommes, comme notre beau-père qui est bricoleur. Je le reconnais, hein, parfois on préfère tourner en rond en voiture plutôt que d'avouer qu'on s'est perdu ou de demander de l'aide. Merci le GPS aujourd'hui. C'est la fierté masculine. C'est des clichés, hein. C'est vrai, dans la société, aujourd'hui, notamment, on valorise l'autonomie, la performance, la réussite. Qui nous dit « Sois indépendant, ne dépends de personne, trace ta route, impose-toi !» La performance et l'image. Moi, c'est quelque chose que je voulais déjà partager, hein, mais c'est... Alors aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout, on voit des collègues pasteurs, et tu vois ça, tu te dis « Oh, ils sont performants !» Et là, tu te dis « Je suis pas à leur niveau !» La performance et l'image. Mais la Bible, mais la parole de Dieu, Dieu nous trace un tout autre chemin comme on le voit ici. Et cette fin de verset, elle est précieuse pour cela. Chaque mot compte. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Réfléchis bien avec cette phrase. Marche avec Dieu. C'est pas à côté, pas devant, pas derrière, mais avec lui. Je sais pas si vous êtes comme ça, en tout cas moi, en tant qu'homme, je suis comme ça. Quand ma femme me partage un problème, mon réflexe, c'est de vouloir régler cela tout de suite. De trouver une solution. Mais parfois, elle veut juste qu'on l'écoute, qu'on soit à côté d'elle, présent. Mais nous, on veut aller vite. Ça dépend des caractères. Mais Dieu nous invite à marcher à son rythme. Et j'aime cette image de marcher au rythme de Dieu, pas au nôtre. Et l'humilité, c'est reconnaître ses limites, c'est reconnaître ses faiblesses, c'est accepter qu'on a besoin d'eux autres, qu'on a besoin de Dieu. Captain America, ça n'existe pas. Marcher humblement, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, c'est de savoir demander de l'aide à Dieu et bien évidemment aux autres. Je marche au rythme de Dieu. Ézéchiel nous met justement en garde aussi, hein. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ton Dieu s'est enorgueilli et tu as dit « Je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. » Est-ce qu'on n'est pas parfois des dieux ? Ce piège nous guette tous. On aime contrôler. Et ce que je trouve extraordinaire, et dans notre groupe de quartier, on partage en ce moment, on est dans Exode, un Dieu tout-puissant qui règne, qui est assis sur le trône, il marche avec nous, nous précède, nous porte. Il y a tant d'images dans la parole de Dieu. Est-ce que le mot-clé, là, c'est « il marche avec ». On n'est pas seul, on marche avec Dieu. C'est beau, hein ? Michel n'a pas dit « marcher avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il n'a pas dit « marcher avec le Dieu, l'Éternel des armées », mais avec ton Dieu, je trouve que c'est doux, c'est beau, je sais pas, enfin, moi ça me touche, c'est intime, marche avec ton Dieu, c'est personnel, c'est lui et moi, c'est relationnel, il est avec toi dans toutes les situations, on n'a rien à prouver, pas besoin d'être modelé au stéréotype de notre société, sois un homme qui marche simplement avec ton Dieu, avec Jésus-Christ, je veux être Jésus. Amen. Je relis Michée 6, verset 8. Tu as fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous connaissez la lune ? Hein ? On la voit. Elle n'a pas de lumière propre. Il n'y a pas de lumière LED qui sorte de la lune. Elle fait que de refléter le soleil. Écoutez ce que nous dit 2 Corinthiens. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nos ténèbres, c'est ce monde qui nous entoure. C'est pas nous qui brillons, mais Christ qui veut briller à travers nous. Pourquoi ? Pour faire resplendir, pour exposer la face de Christ. Moi, ça me donne le goût. En fait, en méditant ces textes, en méditant même ce verset, ça me donne l'envie d'être transformé, d'être façonné par Dieu, pour être à l'image de Jésus. Pas juste un watt, deux watts, mais 1000 watts qui représentent Jésus-Christ. C'est cool, hein ? Tu marches avec lui, tu n'es pas seul. Comment Jésus a vécu cela ? Je reste dans cette image, hein, des pieds engagés. Il a eu des pieds humbles et engagés. Il a marché chaque jour en dépendant de son Père. Il n'a pas fait non sa volonté, mais celle de Dieu. Je ne fais rien de moi-même, il a dit, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Il a choisi la simplicité, l'humilité. Moi, je me suis souvent dit, pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui au temps des médias où on aurait tous sorti, dégainé notre téléphone et on l'aurait. Il est venu dans une bourgade perdue, la parole de Dieu le dit. Il a choisi la simplicité, l'humilité. Il s'est soumis à la volonté de Dieu jusqu'à la croix. Ça, c'est Philippiens qui nous le dit. Dans une culture qui valorise l'ego, l'indépendance, la réussite personnelle, Jésus nous a montré l'humilité, la confiance et l'obéissance. Alors sommes-nous prêts en tant qu'hommes à marcher avec lui pas à pas ? Je termine dans ma conclusion. Dieu ne travaille pas juste dans du marbre, il travaille dans de l'argile vivante. Il a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, n'est-ce pas ? Le week-end dernier, je vous parlais que j'étais au congrès de notre union d'église et il y avait un potier à l'œuvre avec son bloc d'argile. En fait, donc déjà, il avait travaillé en amont parce que c'est dur, hein. Et la pâte devient malléable. Mais une fois posée sur son tour, le potier a dû exercer une pression précise, déjà pour le centrer au centre de son tour, parce que c'est pas centré, bon, ça. Il a pris son temps pour corriger cette pâte qu'il était en train de modeler au centre. Et il avait un objectif toujours en tête. Être façonné par Dieu à son image. C'est pas toujours confortable d'être entre les mains et d'être, en tout cas, j'imagine être de l'argile. Parfois, il met un doigt pour une sensible, hein, pour faire un truc, il met sa main dedans. Et je crois que c'est ainsi que Dieu veut nous transformer. Il veut toucher nos cœurs au plus profond. Il veut qu'on ouvre nos carapaces des fois d'hommes. En Jésus, on a vu le modèle parfait des mains qui servent, un cœur qui aime sans condition, des pieds qui avancent humblement avec Dieu. C'est exactement ce que ce passage nous demande et nous invite à vivre. Et c'est pas toujours facile, et ce sera pas plus simple demain. Mais Dieu ne cherche pas des super-héros. Il cherche des hommes qui sont prêts à être laissés façonner par Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé quand ce potier, il a travaillé, donc du coup, on voyait au fur et à mesure, hein, il s'entrait, il fallait que ce soit. Et à un moment donné, il a lâché ses mains, le pot, il tournait tout seul comme ça. Est-ce qu'on n'est pas parfois des pots qui tournent en rond ? Pas entre les mains du Créateur, mais on n'est pas très utile, là. La poterie, elle tournait, là. Pour qu'elle soit façonnée à être un beau vase, il faut qu'il y ait les mains de notre Créateur. C'est beau, hein ? Alors, cette semaine, laissons-nous modeler. Choisis peut-être quelque chose à travailler. Pardonne là où tu as été blessé. Serre là où tu aurais pu ignorer. Encourage un collègue ou un enfant. Écoute là où tu aurais pu juger. Demande pardon là où tu aurais pu t'endurcir. Imaginons l'impact si nous mettons ce passage de Michée 6, verset 8, en œuvre. J'aime cette idée aussi qu'on n'est pas un chantier abandonné. Je parlais du bricolage. Et on abandonne, hein, on n'arrive pas jusqu'au bout, mais Dieu n'a jamais abandonné, il n'a jamais laissé un chantier en plan. Il ne laissera pas son œuvre inachevée. Il a commencé un travail de transformation et il l'amène jusqu'à son terme. Mais n'oublions pas, ce n'est pas nos propres forces, c'est par l'Esprit de Dieu, comme on le voit dans 1 Corinthiens 15, que cette transformation est possible.